Nous sommes mercredi 9 octobre 2024, vous êtes au chaud et au sec au bord de la cheminée et vous écoutez le Dojo Bar.
Bah!
Bonsoir à tous, bonsoir Antix.
Bonsoir.
Bonsoir les Duses. C'est Duses, mais il faut que j'arrête de lire le prompteur.
Bonsoir à tous.
Bonsoir Mecton.
Bonsoir.
Et bonsoir Mortal, merde. Non, putain, j'ai relu le prompteur.
Mais c'est toi?
Mon dieu, que se passe-t-il? L'émission de ce soir, qui est exceptionnelle, hein, contrairement à toutes les autres, qui sont plutôt des émissions ordinaires, hein, j'aurais dit. On va parler de Zelda. Alors moi, chaque fois que je le tape sur mon téléphone, il me dit « échoué de la sagesse ». Donc voilà.
Oh, Zelda Baguette.
Zelda Baguette. Je pense que c'est effectivement un très bon nom. Donc ce soir, on va parler de Zelda Baguette, on va décortiquer son gameplay, on va décortiquer sa DA, on va décortiquer sa VF absolument.
Aux petits oignons.
Elle est... Encore une fois, Nintendo France s'est dépassé, les gars, les filles, bien joué. Vraiment bien joué. Mais on va commencer tout de suite par notre traditionnel tour de table de l'actu, et je vais laisser la main à Mecton, qui va nous parler de la situation d'Ubisoft, qui est enviable. Hein,
qui est très très enviable. Rappelez-vous ce mème où le logo moderne d'Ubisoft, vu du dessus, c'était un gros caca. c'est à peu près la situation dans laquelle ils sont en ce moment. Ça va pas fort, hein, ça va pas fort du tout. Pour des raisons diverses, hein. On va la faire courte. Les dernières actus, c'est voilà des rumeurs de rachat, de non-rachat, d'offres de rachat annulées au dernier moment, de potentiels délits d'initiés, de grève chez les salariés. Enfin, une boîte française, quoi.
Oh, une boîte de jeux vidéo.
Dans la crise, hein, j'aurais dit.
C'est, j'ai envie de te dire, oui, c'est un peu classique.
Finalement, ne subissent-ils pas, comme le reste de l'industrie, le contre-coup de l'arrêt, enfin le contre-coup de la fin du Covid, où ils avaient tous embauché à tour de bras parce que c'était le nouvel Eldorado, et en réalité, on savait tous que ça allait s'arrêter à un moment, quoi.
Ouais, il y a aussi le fait que Ubisoft, en termes d'image de marque et de produits récents, ils ont pas une très très bonne réputation. C'est pas forcément les pires, mais...
À part Prince of Persia, The Lost Crown, qui apparemment a très bien marché, d'ailleurs. Mais
ouais, le dernier lapin crétin aussi. Critique.
Le dernier lapin crétin, je...
Ouais, ça reste lequel... un bon jeu, non?
Je sais plus du tout.
Merde, tu l'as oublié.
Merde, voilà. Ah si, oui,
le Mario. Mais,
apparemment, le Mario... Mario et les lapins crétins, c'est bien celui-là dont on parle.
Oui, oui, oui.
Mais apparemment, ça a été un succès critique, mais pas tellement commercial.
Oui, oui, non, mais ça, après...
Bon, après, je me dis qu'il vaut mieux avoir de temps en temps des succès commerciaux, de temps en temps des succès critiques, et puis si les deux peuvent se croiser, c'est bien. Mais bon, j'ai l'impression que la formule Ubisoft commence à s'épuiser, à s'essouffler, mais ça fait en même temps 15 ans qu'ils vendent un peu la même chose, quoi.
C'est ça. Donc bon, voilà, on aime bien leur cracher dessus, mais ça fait toujours chier de voir un gros acteur comme ça, qui plus est français, hein, Cocorico, soyons un peu chauvin, dans la panade, quoi. On verra ce que ça donne pour la suite.
Alors, pour la grève, hein, la précision, c'est que c'est dû à une volonté de la direction de faire revenir tout le monde en interne. Alors je crois que c'est plus dans les locaux français. Et bon, comme toute entreprise d'informatique qui se respecte, les gens ont le télétravail, ils n'ont pas envie de le perdre. Donc il y a une partie, c'est une des parties des raisons de la grève. Hein. Je crois qu'il y en a d'autres aussi liées à des... je ne sais plus si c'est eux où il y a des problèmes au niveau des négociations syndicales. Ça aussi, ça tourne pas mal dans les studios français en ce moment. Mais voilà, c'est un peu la merde chez Ubisoft.
Bref, en tout cas, on espère qu'on aura de meilleures nouvelles de la part d'Ubisoft, y compris d'ailleurs si la famille Guillemot, propriétaire historique d'Ubisoft, rachète Ubisoft en entier. Hein.
Il pourrait, tu crois?
Ben, techniquement...
Légalement, ok, mais légalement, financièrement, je sais pas.
Financièrement, il suffit de se faire prêter l'argent, hein, c'est pas très compliqué. Je rappelle que c'est ce qu'avait fait Michael Dell à la toute fin des années 2010, et j'en ai marre de ces cons d'actionnaires qui me laissent pas faire ce que je veux, donc je rachète mon entreprise. Au final, Dell est plus coté en bourse et il s'en porte pas plus mal. Donc, je dis pourquoi pas. Bref, sujet plus léger, enfin plus léger, non en fait, pas du tout plus léger, Antix, qui avait une petite recommandation de regard, un conseil de regardure, on va dire ça comme
ouais.
Ça.
Ouais, alors préparez-vous une bonne tasse de café et un bon planning parce que ça dure 3 heures. Donc la chaîne Zef et Ramo, une chaîne YouTube francophone, a publié une vidéo en deux parties qui s'appelle Weird Game Manifesto, donc le manifeste des jeux étranges. Et derrière ce titre qui pourrait se dire « Ah bah ça va parler de jeux indés un peu bizarres, genre LSD compilation sur PlayStation », en fait c'est une vidéo de 3 heures un petit peu où les deux membres de la chaîne a priori vont à Amaze, peu plus loin Amaze, qui est un festival de jeux vidéo alternatifs et indépendants qui, quand tu le regardes, ça ressemble bien à un truc allemand, et effectivement c'est à Berlin.
Quoi, tu le reconnais, il y a des falafels à tous les coins de rue.
Oh, tu dis c'est bien, c'est alternatif, c'est dans une grande ville. Attends, c'est quoi la ville européenne où ils sont le plus bizarres déjà? Bref. Et en fait, c'est une vidéo un peu de 3 heures où ils vont un peu faire le bilan de l'industrie actuelle. Donc, on parlait juste avant d'Ubisoft, ben, c'est bien, c'est un peu dans cette droite lignée. Mais du coup, avec une volonté plus positive aussi de dire, ben, actuellement, l'industrie elle tourne un peu en rond, les jeux se ressemblent un petit peu tous. Il y a des méthodes prédatrices de monétisation et plein d'autres petites choses que l'on voit au quotidien, ne serait-ce qu'avec les annonces de licenciement et de fermeture. Et en fait, eux, ce qu'ils disent, c'est ben tous ces jeux un petit peu étranges, indés, pas forcément commerciaux, qui visent pas de faire le million la première semaine et compagnie, bah c'est peut-être une solution. Et donc c'est à la fois un bilan un peu négatif de l'industrie et aussi une vision assez positive de ce qu'est le jeu vidéo. Alors c'est du jeu vidéo actuel, et en fait ils montrent un petit peu tout, des images de jeux un peu étranges, des images de jeux qui se contrôlent avec des contrôleurs alternatifs. Il y en a un par exemple, c'est faire du skateboard dans un cyberspace, et le contrôleur bah c'est un skateboard. Un vrai skateboard du coup, qui a été un peu modifié et tout. Et voilà, il y a plein de trucs chouettes. Ça parle aussi un petit peu de faire communauté. Est-ce que ce serait pas l'occasion de faire des scènes locales de jeux vidéo? Donc il y a énormément d'idées qui fusent un peu dans tous les sens. Et c'était super intéressant, en tout cas, moi ça m'a fait un petit peu réfléchir sur c'est quoi le jeu vidéo maintenant. C'est pas mal du tout. Donc je vous recommande. Donc je répète, c'est Weird Games Manifesto sur la chaîne YouTube de Zef et Ramo.
Voilà, ça se retrouvera très facilement, on mettra le lien. Pour les gens qui nous écoutent en podcast, hein, vous aurez le lien dans le podcast. Je vous retrouverai ça exactement, parce qu'effectivement, je pense que ça mérite d'être dit. J'ai pas vu le truc en entier, hein. J'ai regardé une grosse demi-heure, mais déjà rien que le début, c'est déjà intéressant, tu vois, le côté bilan.
Ouais, non, mais je trouve que juste les réflexions sont super intéressantes, ça vaut le coup. Hein.
Tout à fait. Eh bien, je vais prendre le crachoir avant de laisser la main à Méduse pour la conclusion, puisque Nintendo
oh non, pas
a décidé.
Lui.
Ah bah oui, non mais quand même.
Non, pas lui.
Hein. Nintendo a décidé de remuer le couteau dans la plaie concernant F-Zero, puisque la semaine dernière, ils ont annoncé F-Zero GX HD Remix pour Switch 2. Non, je vois si ça. J'ai le temps
mensonge,
de voir si ça passe.
Révolte.
T'as 6 mois de retard sur le 1er avril.
Dans 6 mois d'avance.
D'avance sur la Switch 2.
C'est comme tu veux sur la ligne du temps.
C'est comme tu veux. Voilà, non, il y a juste F-Zero Climax et F-Zero GP Legends. Alors je sais plus, je crois que c'est Climax qui est inédit au Japon, qui sont sortis sur le Nintendo Switch Online Plus, c'est-à-dire celui pour les gens qui payent plus cher. Et il y a également une grosse mise à jour qui est arrivée de F-Zero 99, la mise à jour 1.5.0 qui rajoute la ligue As, dans lequel il y a plein. Alors c'est pas la ligue du cul, hein, pour ceux qui se posent la question.
Ah merde,
c'est con, hein, franchement on aurait pu tenter un truc, mais non. Qui rajoute la ligue As, qui a donc tout un tas de nouvelles courses, dont certaines inédites, c'est-à-dire qui étaient seulement dans la version Satellaview de F-Zero au Japon. Donc ça c'est assez cool, il y a notamment des courses dans la neige qui étaient, je crois, dans la version standard de F-Zero, mais il y en a une me semble-t-il qui était dans la version Satellaview. Bref. Donc voilà, c'est assez cool, F-Zero 99, ça marche toujours très bien, c'est toujours un truc très agréable à faire. Et voilà, c'est tout. Je trouve ça juste triste que Nintendo se souvienne que F-Zero existe parce que F-Zero 99 est là, qu'ils ressortent F-Zero X sur N64, les F-Zero de la GBA, le F-Zero de la Super NES, et pas mais on n'a toujours pas de F-Zero GX HD qui pointe son bout du nez, on n'a toujours pas de nouvel épisode de F-Zero.
Bon. Ça finira par arriver.
Peut-être.
Ah, techniquement, F-Zero 99, c'est un nouvel épisode.
J'ai quand même un peu du mal à considérer ça comme un nouvel épisode. Bref, je vais laisser la main pour la dernière actu de ce tour de table de l'actu à Méduse.
Ouais, qui va un petit peu nous réveiller, je crois.
Je pense.
Oh, fantastique. Oui, alors c'est tombé juste aujourd'hui dans en début de soirée d'après-midi, Nintendo a annoncé une nouvelle petite surprise qui n'est pas un jeu vidéo. Je pense qu'on lui trouvera quelques utilisations ludiques à l'occasion. Il s'agit d'un réveil nommé Alarmo. Alors Alarmo, qu'est-ce que c'est ? C'est un réveil qu'on met sur sa table de chevet près de son lit ou par terre pour ceux qui n'ont pas de table de chevet et qui a un écran qui montre l'heure comme tous les réveils et ce réveil-là vient avec 5 ou 6 thèmes pour se faire réveiller le matin au son de vos jeux préférés avec une toute grosse particularité, c'est que en fait il y a des capteurs embarqués dans le réveil et ces capteurs-là sont apparemment capables de comprendre un peu quels sont vos mouvements, si vous êtes en train de réveiller, de vous réveiller tout doucement, soudainement ou pas du tout. Et en fonction de vos mouvements, des petits sons additionnels sont émis par le réveil. Donc on peut imaginer, je crois que pour Mario Odyssey, qui est un des 5 thèmes qui sera dispo avec ce réveil, je crois qu'il y a des bruits de pièces de Mario, ce genre de trucs. Et une fois que vous êtes levé, le réveil s'éteint tout seul, donc il n'y a pas besoin du tout de le toucher. On ne sait pas encore si ça marchera si vous avez un chat par contre parce qu'on sait que les chats sont les amis.
T'es en train de normalement, tout d'un coup
voilà, ça fait quand on a un chat normalement le chat est le réveil donc on ne sait pas du tout quelle sera l'entente entre les deux bestiaux. Alors ça sort quand ? Ça sort le 25 janvier d'abord en exclusivité pour les gens qui ont un abonnement en Nintendo Switch Online donc je suppose qu'on devra passer par le store de Nintendo Europe.
Tout à fait.
C'est vendu 100 balles quand même.
Wow.
Et ça se recharge avec un câble USB-C fourni avec. Ils fournissent un câble USB-C vers USB-A.
Mais pas le chargeur.
Et pas le chargeur.
L'adaptateur. Voilà,
comme ce qui est la pratique à peu près courante depuis quelques années, je dirais. Et voilà, donc les 5 thèmes, réveils qui seront dispo à la sortie, c'est Pikmin 4. Ring Fit Adventure, Zelda Breath of the Wild, Mario Odyssey, et j'ai oublié le dernier.
Splatoon 3,
oui. Exactement. Et il y aura aussi par après des DLC gratuits.
Oh mon dieu, j'ai hâte de mettre à jour mon réveil. Moi.
Voilà, pour mettre à jour votre réveil connecté à Internet. Et je crois qu'il y aura Mario Kart et je sais plus quoi d'autre.
Animal Crossing.
Et Animal Crossing, voilà.
Alors moi j'espère que pour Breath of the Wild, il y aura le thème de gardien dans le réveil.
Ouais, alors
avec le bip.
À voir. On sait que pour Mario Odyssey, ce sera la chanson de Pauline, Jump Up Superstar.
Ah, il y a plusieurs thèmes par jour.
Ouais. Exactement. Et donc pour activer le réveil, il faudra un smartphone puisqu'il y aura, ça passera via je sais pas quelle application, service ou whatever. Et donc pour ceux qui comme moi n'ont pas encore d'objets connectés chez eux, potentiellement vous avez là votre premier candidat pour une grosse faille de sécurité à la maison.
Ce que j'allais dire, c'est une faille de sécurité à 100 balles.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce Alarmo ?
Je pense que le nom déchire.
C'est alarmant.
J'en sais rien. Bon, ok.
Est-ce qu'on a envie de claquer 100 balles
pour, c'est ça, c'est pour gadget, avoir un truc c'est rigolo. Gadget rigolo, mais c'est cher.
C'est 100 balles, est-ce que tu vas les mettre dedans, quoi ?
Ça.
En vrai, le truc elle est rigolo. À 50 balles, sincèrement, je pense que je me serais laissé tenter. Tu vois, ça faisait toujours cher, mais pour le gadget, pour le côté rigolo, pourquoi pas. Et je veux dire, aujourd'hui, tu te réveilles avec c'est ton téléphone qui te réveille. C'est le cas de 90% des gens, je pense. Il y a très peu de gens qui ont encore un réveil matin.
Non, il y a plus de gens que ça qui ont un chat quand même.
Et il y a peut-être plus de gens que ça. Il y a des gens qui ont un chat et un smartphone, tu vois, donc il y a une espèce de double recoupement.
Il y a des gens qui ont besoin de plusieurs réveils, donc achat et un smartphone, ça aide.
Oui.
Non, mais voilà. Mais après, je serais curieux de voir ce qu'ils ont fait de plus maintenant.
Ouais, attends. C'est rigolo. Rappelez-vous, pendant des années, le matos Nintendo ne changeait pas d'heure tout seul sur le changement horaire. Ça va être le cas, enfin.
Non, ce sera pas le cas.
Hein.
Ça vaut pas ces 100 balles, alors.
Attends, Franck, tu le changes toi-même.
C'est une feature, hein. C'est pas un bug, hein, chez Nintendo.
Il y aura peut-être une version collector où l'heure changera. Ce sera 200 balles.
De manière aléatoire, tous les jours, on change de fuseau horaire.
La temporisation du réveil matin.
Alors, la valeur ajoutée du truc, c'est que, bon, déjà, il ne faut pas te toucher au réveil. Il va s'éteindre tout seul quand tu te lèveras. Chose qu'actuellement, il n'y a probablement pas grand-chose qui fonctionnent comme ça. Je veux dire, même les machins d'Apple sont pas assez intelligents pour comprendre que t'es levé et réveillé. Et alors, bah, ce sera toujours agréable d'entendre les petits sons de Breath of the Wild probablement au réveil, quoi.
Enfin, techniquement, tu peux faire la même chose avec ton smartphone, un mode snooze.
Ouais, mais tu dois le toucher, le téléphone.
Ah, faut le toucher.
Ouais,
faut tu peux pas juste lui crier dessus, alors que le chat, tu peux.
Le chat, il faut le toucher, ouais.
Bon, bah, le chat, tu lui mets un coup de genou, c'est ça, ouais.
c'est un coup de pied en général.
Voilà. Wally Wallou.
Voilà, Jean Fulgence qui vient de se rendre compte que c'est lui le chat, puisqu'il réveille les chats quand il est chez lui. Donc c'est quand même un gros problème. Bref, avant de passer à la toute première pause musicale, et je me rends compte que je voulais pas annoncer parce que j'ai fait de la merde, on va faire ça, voilà, j'ai juste pas du tout modifié le conducteur à l'arrache, tout va bien.
Vous n'avez rien vu.
Vous n'avez rien vu, il ne s'est rien passé. Je vais vous signaler un petit truc pas très important, mais quand même. Le dojo est maintenant disponible sur Blue Sky, parce que c'est la mode. Donc si vous ne pouvez plus piffrer le réseau Elon Musk, et sincèrement, je vous comprends, si vous en avez marre des revirements de situation de Twitter et de cette ambiance pourrie, mais que vous n'avez pas encore assez de poils au menton pour aller sur Mastodon, et ça rime, eh bien vous avez le droit de nous suivre sur Blue Sky, vous aurez exactement le même flux d'actualité que sur
moins de pub et de moins de facho.
Sur Twitter. Pardon ?
Moins de pub et moins de facho.
Pour l'instant, sur Blue Sky, moins de facho, oui, moins de pub...
Attends, Blue Sky, c'est le truc de Facebook ? Ah non,
c'est le truc de Jack Dorsey.
Et c'est le mec de Twitter.
Jack Dorsey. Oui. L'ancien fondateur de Twitter qui a refondé un autre truc.
On va faire la même chose.
Ça risque de tourner à peu près pareil quand il l'aura vendu, on va être honnête.
Sûrement la même personne.
En attendant... Ah oui, c'est vrai, il s'est barré. Donc c'était lui le fondateur, mais il s'est cassé parce que finalement il s'est dit ça n'a pas de potentiel. Et c'est vrai, ça n'a absolument aucun potentiel.
Ah, 40 milliards, quoi.
Ouais, ça, c'est bon, argent de poche. Bref. Quoi qu'il arrive, bon, on est là-bas, donc si vous y êtes aussi, bah, abonnez-vous, hein, suivez-nous, ça nous fera très très plaisir. En attendant, on va s'écouter un petit morceau de la bande originale de The Legend of Zelda, Echoes of Wisdom. Il s'agit du morceau qui s'appelle Zora Town 6, c'est le thème du village Zora, qui est, si je ne me trompe pas, un semblant de reprise du thème du village Zora de Ocarina of Time.
Ouais, c'est très loin quand même. Hein.
De quoi, comme village Zora?
Enfin, je veux dire, le thème, on sent pas tant que ça. Je trouve que justement, il arrive à se différencier assez.
Oui, mais tu retrouves des petites touches.
Bah, il y a la harpe déjà.
Voilà. Il y a deux, trois petits trucs qui fait que tu t'y retrouves. Bref, ça dure un tout petit peu plus de 3 minutes et on se retrouve tout de suite après. De retour. Mais avant de démarrer le sujet Echoes of Wisdom, messieurs, l'heure est grave. Il va falloir quand même qu'on adresse l'éléphant dans la pièce. Qu'est-ce que c'est que ce gloobibulga bobo socialo-wokiste qui est The Legend of Zelda Echoes of Wisdom? Alors, d'abord, il me semble que Zelda était un homme jusqu'à présent. Hein, moi, j'ai joué à Breath of the Wild. C'était un bonhomme. Là, maintenant, on annonce que c'est une femme. Personnellement, je suis complètement contre hein, qu'on m'impose un petit peu une idéologie transgenre directement. Hein, je veux dire, sans même me prévenir.
Non, mais Zelda, il était un petit peu travesti aussi hein, dans Breath of the Wild.
Oui, mais tu avais le choix. Tu avais le choix. Alors que là, il n'y a pas le choix. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. D'autre part... Et c'est peut-être plus grave encore, parce que j'aimerais bien qu'on parle de tri. On a un problème avec le personnage de tri. Je cite le jeu, hein, je n'invente rien. Entrons dans cette faille et libérons mes camarades. Voilà, clairement...
C'est très communiste, ça. Hein.
Nous avons affaire, effectivement, à quelque chose de grave. Hein. C'est du socialisme, ça, messieurs dames. C'est du socialisme, soyons très très clairs. D'autre part, hein, un tout petit peu plus loin dans le jeu, même problème, « Maintenant que nous avons libéré mes camarades, nous allons pouvoir foutre le zbeul dans cette faille. » Je cite. Il n'y a pas de... voilà.
Je me sens qu'il y a eu des petits changements dans les mots, là.
Non, non, pas du tout. Alors, je suis désolé. Je suis désolé. Il y a un problème. Je cite encore Tri, hein, c'est un petit peu... Voilà, je suis désolé, ça va tourner à l'obsession. Hein. « Si on occupe le château d'Hyrule, on pourra peut-être baiser la gueule à tous ces connards de bourgeois. » C'est écrit. C'est dans le jeu. Donc, à un moment, on arrête de se foutre de la gueule du monde. Hein, je veux dire, c'est un scandale. Non, je déconne, c'est pas du tout un scandale, tout va bien, vous inquiétez pas. Voilà. Désolé.
Et encore, t'as oublié, il y a un petit gamin...
On a reconduit Mortel Zemmour à la sortie du bar. Hein.
Ça vaut mieux.
Il y a un petit gamin dans le château d'Hyrule, alors soit il y a une erreur de traduction, soit il a deux mamans.
Ah oui, mais c'est... Alors voilà, voilà, oui. Voilà. Ah, bravo. Hein. Voilà.
Et puis t'as oublié de dire que Zelda, elle portait le voile, hein.
Putain, j'ai raté le plus important, bordel.
Mais elle peut se baigner avec. Donc c'est vraiment woke.
Donc c'est vraiment n'importe quoi. Voilà, ce jeu est une horreur. Moi, je quitte ce plateau. Monsieur Pro, c'est un scandale. Bref, allez, trêve de conneries. Antix va nous faire le petit speech d'introduction du jeu, qui sera peut-être plus sérieux que la petite connerie que je viens de vous présenter.
Ça, c'est pas dit, hein, mais bon. Panique en Hyrule, la princesse Zelda a disparu et personne n'arrive à la trouver. Tout ceci est la faute d'un gigantesque monstre bleu à tête porcine qui l'a enfermé au fin fond de son donjon. C'est à ce moment qu'un mystérieux épéiste surgit hors de la nuit pour réduire le perfide kidnappeur de princesse en chair à saucisse. Mais la victoire est de courte durée car une espèce de flaque violette apparaît sous les pieds de notre héros et l'engloutit aussi vite que l'on avale un kebab quand on est bourré. Heureusement, le jeune homme a le temps de tirer une flèche qui libère la princesse de son piège de cristal, lui permettant de fuir le donjon qui lui aussi est en train de se faire engloutir. La pauvre n'est pas au bout de ses peines, puisqu'à peine revenu au château, son père, le roi d'Hyrule, est aussi englouti dans une faille et est remplacé par un imposteur qui la condamne à mort pour avoir causé l'apparition des failles partout dans le royaume. Afin de permettre au jeu de commencer vraiment, elle parviendra quand même à s'échapper, avec l'aide d'Impa, sa nourrice ninja, et surtout de Tri, ou Trai, je sais pas comment on dit, une petite boule lumineuse avec des triangles aux fesses. Yel lui confiera la baguette tradition de la sagesse, artefact magique permettant de copier et coller moult objets comme des lits, des mots blancs, des cailloux, des lits, des corbeaux, encore des lits, mais pas des poules, bah sinon ce serait trop fort. Est-ce que je vous ai dit qu'on pouvait copier-coller des lits dans ce jeu? C'est donc après cette journée en enfer que Zelda se lance dans sa première quête solo depuis un obscur jeu réalisé par un fabricant d'électronique néerlandais que l'on préférera oublier, et décide de parcourir Hyrule pour fermer les failles par elle-même parce que merde, des fois, faut bien faire le boulot par soi-même.
Oui, bravo.
Merci.
C'est excellente introduction, effectivement, on est là-dedans. C'est bien résumé. Voilà, vous avez le tout début du jeu, on va commencer par la partie gameplay, on reparlera un petit peu du scénario après, mais voilà, ça donne une bonne introduction, effectivement, on va faire beaucoup de copier-coller.
Surtout des lits.
C'est ça, surtout des lits. C'est on expliquera pourquoi, hein. Il y a quand même une subtilité de gameplay qui justifie le fait que le lit soit une arme surpuissante dans ce jeu. Donc la grosse nouveauté de cet épisode, ce sont les échos. Ce sont donc ces objets que l'on peut mémoriser et qu'ensuite on peut rematérialiser à volonté. Alors, à volonté, pas tout à fait, il y a une petite nuance. Tri, le petit compagnon qui vous accompagne, donc l'espèce de petite boule jaune qui ressemble plus ou moins à Navi, qui joue plus ou moins le rôle de guide, et qui a effectivement des petits triangles aux fesses. Tri peut vous aider à matérialiser ces échos. Le souci, c'est que chaque écho va prendre plus ou moins de triangles, en fait. C'est-à-dire qu'au départ, vous avez trois triangles, ce qui veut dire que si vous devez matérialiser un pot qui est un triangle, vous pouvez matérialiser trois pots. Quand vous matérialisez le quatrième, le premier disparaît. Et puis pareil, si vous avez un ennemi, par exemple, que vous avez aussi mémorisé, puisqu'on peut mémoriser les ennemis...
Après les avoir vaincus
une première fois. Donc, quand vous mémorisez l'ennemi, quand vous le sortez, généralement, l'ennemi va prendre deux triangles. Donc ça veut dire que si vous en avez que trois... c'est un petit peu emmerdant parce que vous pouvez juste matérialiser un ennemi, un allié qui va faire deux, pas un deuxième. Dès que vous aurez quatre triangles, vous pourrez en matérialiser deux, mais pas trois. Et puis pareil, les ennemis, l'ennemi que vous matérialisez pour vous rendre service est puissant, plus il consomme de triangles. Est-ce que c'est bien résumé?
Ça me paraît plutôt bien résumé.
Oui.
Ça me paraît pas mal. Alors il y a quand même deux, trois petites nuances. On a On peut mémoriser pas tout et n'importe quoi.
Oui, c'est des choses qui sont sélectionnées, c'est un petit peu comme les ennemis qu'on pouvait capturer dans Mario Odyssey.
C'est ça, on peut pas capturer n'importe quoi. Alors, il y a des choses surprenantes. On peut capturer un nombre de peaux hallucinantes.
Ah, dans chaque village, il y a un pot divers variantes de lits.
Divers variantes de lits, tout à fait, qui ont parfois des propriétés spéciales. Hein. Le lit de Zelda a une propriété tout à fait particulière.
Ah.
Quand tu te reposes dans le lit traditionnel, il se passe rien. Quand tu te reposes dans le lit de Zelda, tu regagnes des cœurs.
Ah bah, non, tu peux le faire aussi dans le lit moelleux.
Oui.
Ah,
intéressant. Et dans le lit classique aussi, mais ça prend des bombes.
Ah merde, je savais pas, moi je me suis toujours dit bombes.
C'est genre un lit à récupérer quand t'étais en tôle, quoi.
C'est le lit de la tôle.
Et déjà, il y a un sommier. Hein. C'est pas mettre là par terre.
Donc voilà, les objets, ce sont des objets prédéterminés. Généralement, à quelques exceptions près, on trouve l'objet un petit peu avant d'avoir besoin de. On trouve l'objet pour la première fois un petit peu avant d'avoir besoin de s'en servir. Je pense notamment au début du jeu où on te file
3-4 objets pour que tu puisses comprendre un peu le truc dans une espèce de phase d'infiltration pour sortir de la prison globalement.
C'est ça. Tu as les ennemis aussi, donc chaque fois qu'on arrive à vaincre un ennemi, soit en utilisant un autre ennemi, soit en utilisant un objet, soit en utilisant, on reviendra un petit peu sur les combats un tout petit peu après.
Parce que par défaut, Zelda n'a pas d'armes.
Ne sait pas se battre. Ce qui est un peu... Alors, à titre personnel, je trouve que c'est un manque de couilles de Nintendo de pas lui avoir filé une épée.
Moi justement, je trouve que lui avoir filé une épée, c'était un manque de couilles, mais on en reparlera après.
On en reparlera après. Zelda Hyrule, elle n'a pas d'armes, donc... C'est moche.
Ça, c'est Mizamudo.
Ah, mais que ton, t'es moche, quoi. C'est vraiment très très moche. Donc oui, les échos, c'est un mécanisme un peu rigolo, et donc effectivement, on peut mémoriser aussi les ennemis et les matérialiser, et généralement, ils travaillent pour toi, et ce qui est rigolo, qui est vraiment très rigolo, ce qui est vraiment très bien foutu, c'est que chaque ennemi a un comportement un petit peu différent, et il y a des ennemis qui s'upgradent au fur et à mesure du jeu. C'est-à-dire qu'il y a un poisson standard qui devient un poisson V2, qui devient un poisson V3, donc au fur et à mesure, on a un poisson qui est, entre guillemets, de plus en plus puissant, qui va être à tête chercheuse de plus en plus loin, qui va faire de plus en plus de dégâts, et ainsi de suite.
Ouais, c'est les color swap de Final Fantasy. Hein.
Oui, mais ça n'empêche pas que le... Voilà, c'est rigolo que le truc soit à ton service, en fait. C'est
ouais,
ça que je trouve intéressant.
Et puis, du coup, au niveau... Alors, il y a les ennemis... Ils peuvent justement, en plus, comme t'as différents ennemis, ils attaqueront pas de la même façon. Bon, forcément, les ennemis aquatiques dans l'eau seront plus efficaces. T'as différentes variantes de moblins qui peuvent attaquer au corps à corps ou à distance. T'as des ennemis volants, tu peux utiliser les corbeaux pour attaquer, ça c'est rigolo. Donc ça permet de gérer les combats, par contre ça les rend beaucoup plus longs que dans un Zelda traditionnel. Vu que tu dois attendre que l'ennemi, que le monstre agisse, bah du coup tu te retrouves un peu, il y a des ennemis qui sont un peu chiants à gérer, genre les... Merde, comment elles s'appellent, les araignées bleues là qui sautent partout?
Oui, les Tektites, mais qui sont pas des Tektites.
Bon, bref, eux, ils sont particulièrement relous parce que les ennemis sont pas assez réactifs pour gérer leur saut.
Il y a une technique.
Ils les chopent avec...
Voilà, mais ça, on va parler du deuxième pouvoir si on en parle tout de suite.
On va en parler tout de suite après. On va juste finir.
Juste un petit mot sur les objets. Après, pour tout ce qui va être objet, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir s'en servir. Enfin, même certains ennemis, tu peux t'en servir pour évoluer dans les niveaux. Il y a un peu la blague de on empile des lits pour grimper, mais en fait, c'est quelque chose qui se fait assez facilement. Dans le jeu, et après il y a plein d'autres petites subtilités à un moment où vous ferez juste un bloc d'eau. Le bloc d'eau c'est très pratique aussi pour pouvoir se déplacer au-dessus des trous, monter en hauteur, grimper sur les arbres. Donc il y a quand même une assez grande liberté de déplacement, et dès le début en fait on peut se retrouver à grimper des falaises, que dans Zelda il aurait fallu avoir le grappin ou trouver un passage détourné, là t'as juste à empiler des trucs et t'y accèdes quoi.
Voilà, justement à propos d'empiler des trucs, parce qu'un des trucs qu'on dit depuis tout à l'heure sur le jeu, c'est qu'on va faire beaucoup de lits. C'est-à-dire qu'on fait un lit, puis un lit, puis un lit. C'est vrai que le lit, c'est quand même... Ça devient très très rapidement l'objet de référence, ce qui est un peu curieux quand on y réfléchit.
C'est un objet qui te fait monter légèrement en hauteur, et surtout qui est deux cases de long. Donc tu peux mettre un lit sur un autre lit, ce que tu peux pas faire avec les tables, par exemple.
Exactement. En fait, le système de jeu, enfin le moteur de jeu a l'air d'être basé sur celui de Link's Awakening, qui lui-même... à vue de pied, doit être plus ou moins un dérivé de ce qu'on avait pour Breath of the Wild, parce qu'on retrouve pas mal de similitudes, notamment dans l'interface, et il y a quelques petits bugs qui me font dire que c'est probablement un dérivé, mais c'est un système de cases, en fait. C'est-à-dire que tout le jeu est sur une grille, qui évidemment on ne voit pas, comme Link's Awakening c'était le cas, et donc en fait quand on crée un objet, il occupe par défaut, quand c'est un petit objet, une table, une chaise, un pot, il va occuper une case. Le lit a l'avantage d'occuper deux cases sur une, donc il fait vraiment une espèce de petite barre, ce qui fait qu'on peut très facilement monter dessus en sautant, puis faire un deuxième lit, puis monter dessus, puis faire un troisième lit, puis monter dessus, puis faire un quatrième lit, et ainsi de suite. Donc on peut monter, et effectivement, comme les lois de la gravité ne s'appliquent pas dans ce monde, en tout cas, j'ai pas vu jusqu'à présent des lits s'écrouler ou des choses comme ça, il y a quasiment pas de physique en réalité dans le jeu.
Bah, en fait, c'est juste que si jamais le lit qui était tout en bas disparaît parce que tu en as déjà placé 3 ou 4 et que du coup t'es à court de triangle, bah, il disparaît et les autres ils tombent puisqu'ils ont plus rien qui les supporte.
C'est ça. Mais du coup, on peut effectivement faire des escaliers avec des lits, et ça devient un peu le running gag, mais c'est vrai que c'est un des objets les plus utiles. Alors, dans le même ordre d'idée, il y a la caisse en bois qui est vide et donc qui flotte. Donc quand on se retrouve dans certains coins, c'est intéressant de lâcher des caisses en bois pour pouvoir juste monter dessus et se laisser tranquillement flotter. Quoi, tu l'avais jamais fait?
Non, mais tu t'as pété dans l'eau.
Oui, tu lâches une caisse dans l'eau, bah oui.
Oh non.
Oh,
oh la vache.
C'est un petit peu limite.
Le trampoline est très pratique aussi.
Le trampoline est pas mal.
Trampoline, c'est
rigolo. En fait, tu vois, tu parles des lits qui se font deux cases sur une, mais t'as plein d'objets, en fait. Quand tu veux gagner de l'altitude, tu peux sauter, on va dire, d'une case verticale à la fois, mais du coup, une caisse occupe deux cases. Et avec le trampoline, tu peux directement atteindre un niveau plus élevé. Et tu peux, du coup, mettre, par exemple, deux trampolines côte à côte. Puis, tu remets un deuxième sur celui de gauche, par exemple. Tu passes par celui de droite qui est sur la première case pour monter sur celui de gauche. Puis sur le trampoline de droite qui est juste adjacent, bah, tu peux poser par exemple une caisse à deux cases. Et comme ça, juste sur un espace de deux cases, tu peux vite gagner de l'altitude en alternant trampoline et autre chose. En fait. Et c'est assez pratique. Moi, ça m'a permis d'atteindre des sommets assez tôt.
Des hauteurs insoupçonnées.
Absolument.
En plus, c'est là, pour tous ces objets, en plus de... C'est... Au début, on va nous filer beaucoup d'objets. Et en fait, je trouve qu'après, par la suite, dans le jeu, surtout les monstres qu'on va voir en Nouveaux Échos. Parce qu'assez vite, en fait, je pense qu'ils se sont dit que, bon, bah, pour ce qu'ils avaient à faire, ils avaient besoin d'une poignée d'objets. Et après, c'est surtout les échos des monstres qu'on va récupérer. Moi, il y a un dernier truc que j'aime bien, c'est les dalles qui te volent à la gueule dans les autres Zelda. Là, tu peux en choper une et l'utiliser pour te déplacer.
Bah, j'ai pas réussi à les vaincre et les capturer, en fait.
Alors en fait, c'est très simple. Dans le premier donjon où tu vas les rencontrer, en fait, si tu fais attention, les dalles qui vont te rentrer dedans, elles ont déjà l'espèce de petit halo qui dit que tu peux mémoriser. Il faut les mémoriser avant qu'elles se cassent.
Il y a une quête aussi donne l'indice comme quoi elles sont mémorisables.
Donc, deuxième petite particularité, on a la télékinésie. Alors, j'ai appelé ça la télékinésie, je sais pas comment ça s'appelle, c'est du tu peux.
C'est le pouvoir.
Synchro.
Le pouvoir habituel de Breath of the Wild qui permet de choper des objets et de les déplacer, quoi.
Oui, c'est ça, tu peux te lier à un objet et en fait, soit tu peux te laisser porter, c'est-à-dire si c'est un objet qui se déplace tout seul, bah, il va te déplacer en même temps, donc tu peux même voler au-dessus. Oui, c'est une espèce de ultra-end, on nous dit dans le chat, mais c'est, effectivement, ça ressemble à ça. C'est-à-dire, tu chopes un truc, et en fait, tu vas rester à la même distance que tu l'as chopé, et si l'objet se déplace, bah, tu peux te déplacer avec, sinon tu le bloques, donc il y a pas mal d'énigmes qui profitent un petit peu de ce fonctionnement télékinésique.
Ouais, tu peux utiliser, par exemple, aussi certains mousses pour te déplacer, genre les araignées pour grimper au mur, les corbeaux pour voler...
C'est ça, puis il y a d'autres trucs un peu plus sioux où tu peux genre créer un ennemi. T'as un ennemi que tu arrives à avoir assez tôt dans le jeu qui est une espèce de bougie, une espèce de blob enflammé. Et en fait, tu peux t'en servir simplement en le chopant comme ça et le balader pour aller allumer des torches, quoi. C'est des trucs comme ça. C'est vraiment pouvoir effectuer des actions à distance aussi en s'accrochant soit effectivement à des ennemis, soit à des morceaux de trucs, soit.
Effectivement, comme disait Mecton, on peut aussi attraper des adversaires qui sont des monstres qui sont pas sous notre contrôle. Et en fait, ça va les bloquer sur place, donc en fait, ça peut permettre effectivement à sa petite troupe de monstres d'aller leur casser la gueule pendant qu'ils sont bloqués.
Ouais, ou tu les ramènes à portée, c'est encore plus vicieux, ça.
Oui, tu peux aussi les... Oui, parce qu'effectivement, quand tu te déplaces, tu déplaces le monstre, et puis t'as un bouton pour appuyer, ou c'est le monstre qui te déplace. En gros, c'est à peu près ça, le concept. D'ailleurs, je pense qu'on va peut-être enchaîner sur les combats, du coup.
Donc, comme je disais, du coup, c'est un petit peu plus lent, vu qu'on combat pas directement, on doit faire appel à des monstres. Et après, on peut faire des trucs un peu rigolos. Hein.
Intelligemment, idéalement.
Pirouette, non.
Non. Et moi, j'ai un truc rigolo, c'est que là, j'ai eu des réductions sur certains de mes échos. Et du coup, je peux invoquer 4 porcins avec des boomerangs. et vraiment, je m'en sers pour bully des boss. Notamment le boss du 4ème donjon. Je me suis fait un petit peu plaisir sur celui-là.
Alors effectivement, les combats, c'est intéressant parce que tu ne combats pas directement les ennemis, en tout cas pas complètement, parce que tu peux aussi matérialiser des pots et leur envoyer à la gueule, tu peux matérialiser des poissons-bombes et les faire exploser. Donc tu peux quand même, entre guillemets, te battre, mais tu vas pas leur donner directement des coups d'épée, en tout cas au début.
Alors, très rapidement, tu vas obtenir une épée.
Très rapidement, tu vas obtenir le pouvoir de te transformer en Link, et donc d'avoir une épée, un arc, tous les attributs traditionnels de Link.
Les attributs de Link, oui, oui.
Les attributs de Link, tout à fait. Bah, je suis désolé, l'épée, l'arc... je sais pas s'il y a autre chose, d'ailleurs.
Les bombes, c'est des trucs ronds.
Il y a les bombes... Ah, j'ai plus le dernier, bref.
Bah, c'est les bombes, l'arc et l'épée. Hein.
Il y a pas un autre truc, il me semble.
Pour l'instant, je pense pas qu'il y a autre chose, parce que c'est ce qu'il a dans l'intro, a priori.
T'as le bouclier et...
Oui, t'as le bouclier, effectivement.
Voilà. Et le fait que Link saute un peu plus haut.
Ah, ça, je ne savais pas, tiens.
Saute plus haut, voilà.
Alors, l'inversion un peu rigolote, c'est que, d'ordinaire, quand tu es... Quand tu joues Link dans les jeux, t'as une barre de magie qui s'épuise quand tu vas utiliser une magie. Là, comme Zelda, elle fait que de la magie, elle a une barre de Link qui s'épuise au fur et à mesure. Donc, elle a une barre de Schwarzenegger, en fait, qui s'épuise quand tu joues le guerrier. Barre qu'il faut augmenter régulièrement, d'ailleurs. Mais voilà, je trouvais ça un peu rigolo, le côté complètement inversé, c'est-à-dire pour faire le bourrin, t'as une jauge, pour faire de la magie, bah c'est normal, tu vois, c'est juste la baguette, et puis t'y vas, quoi. Il y a un côté un peu
comme... Voilà, après, moi, ce que je trouvais un peu dommage avec cette transformation en Link, c'est que du coup, ils ont dit, bah oui, Zelda, elle se bat pas à l'épée, on a dû trouver d'autres façons, et je me dis, bah c'est cool, tu vois, on va vraiment pas avoir le gameplay traditionnel, et au final, tu sens que c'est quelque chose qu'ils ont ajouté parce que ils n'arrivaient pas à trouver de solution avec le gameplay de base pour gérer des combats de boss ou des combats de monstres. Enfin, moi, je trouve que c'est dommage, tu vois. Finalement, passer en Link, c'est se faciliter la vie dans les combats, et, alors que ça aurait pu trouver un truc vraiment aller jusqu'au bout avec leur idée, quoi.
Mais ça reste quand même limité, puisque t'as une jauge qui s'épuise.
Bien sûr, bah après, il y a des fois, c'est juste ça facilite la vie. Hein. Moi, il y a des fois des monstres clairement qui me cassent les couilles, je mets Link, je les tabasse. Le changement se fait rapidement, t'as juste appuyé sur une touche, mais je trouve que c'est un petit peu, on en parlera aussi dans le scénario, je pense, mais c'est un peu un aveu d'échec pour moi par rapport à ce qu'ils ont vanté quand ils ont présenté le jeu la première fois, de mettre une option Link dans un jeu où justement on voulait penser le gameplay sans utiliser l'épée.
Mais quand tu penses, toi, que c'est pour ça aurait pu choquer, entre guillemets
Ouais, alors, on déconne sur le côté walk-walk, je pense que à l'écriture du gameplay, ils ont quand même dû se dire, on a 2-3 fans un peu bas de plafond, s'il n'y a pas une épée avec laquelle ils peuvent taper, ils vont gueuler, quoi.
Ouais, il y a un peu...
Bah, je suis pas sûr que ce soit une préoccupation chez eux. Hein. Moi, je pense que c'est vraiment un problème de game design, quand tu veux mettre des boss traditionnels dans Zelda, bah, ça marche mieux avec... ça marche pas aussi bien avec Zelda qu'avec un Link bourrin, quoi.
Même si... Bah, alors, peut-être que je dis une connerie, mais le Link... complètement optionnel, à part pour certains puzzles peut-être. Mais les boss que j'ai rencontrés jusqu'à présent, alors comme toi, hein, j'ai fait solution de facilité, c'est mes petits sbires et puis je bourrine en parallèle, mais je pense qu'il y a moyen de faire la totalité de ce que j'ai fait du jeu jusqu'à présent sans utiliser l'épée.
Peut-être juste 2-3 passages ou...
Ouais, des toiles à découper, des trucs...
Voilà, c'est ça. Mais c'est vraiment, ça facilite la vie sur les boss, on va pas se mentir.
Ouais, surtout que l'épée est quand même très puissante, puisqu'elle est plus puissante contre les ennemis contaminés par la faille violette, là.
C'est assez encourageant à utiliser, hein. Puisque quand tu butes ces ennemis-là, tu récupères les ressources qui te permettent de remplir la barre de Link, justement.
Ouais, justement, donc c'est vrai qu'il y a un côté... Je suis d'accord sur le fait qu'il y a peut-être un petit côté aveu d'échec, dans le sens où tu aurais pu avoir des boss qui auraient été plus faibles face à certains échos.
C'est ça,
certains ennemis.
Ce que j'allais vous dire, il y a un petit plaisir aussi, c'est trouver le bon monstre à mettre en face de chaque ennemi.
Oui, tout à fait.
Il y en a qui sont beaucoup plus efficaces que d'autres, quoi. Il m'est arrivé souvent de dire, attends, mais ce combat dure vraiment une éternité, je dois pas faire ce qu'il faut, quoi.
Oui, tout à fait. Alors que, mais du coup, ça fait quand même, malgré tout, ça fait traîner en longueur les combats. Comme tu peux pas directement aller taper les mecs, Bah, tu t'es obligé finalement d'aller passer par cet artifice de bon, faut que j'aille créer un monstre, faut que le monstre attaque le bon ennemi au départ, parce que même si l'IA est pas trop mal foutue,
il y a un ciblage, on l'a pas dit.
Je trouve que effectivement, il y a un côté. Tu devrais pouvoir t'en sortir absolument sans bourriner, mais je trouve que c'est quand même plus compliqué, et peut-être que c'est aussi pour ça, effectivement, qu'ils ont fini par dire « Bon, tant pis, on va mettre un mode league, mais faut quand même le nerfer un petit peu, histoire que ce soit pas trop le bordel. » Après, est-ce que c'est pour pas choquer les fans? J'en sais rien. J'en doute. Parce qu'effectivement, ils avaient l'air d'en avoir un peu rien à foutre.
Bon, en vrai, je pense que vraiment Nintendo, alors je sais pas à quel point ils ont quelque chose à faire de... Des débats infinis sur Twitter sur jeu woke, pas woke et compagnie, je pense qu'ils s'en branlent un peu. Ils font un peu
ah, mais vous êtes sérieux? Ça existe vraiment?
Ils s'en préoccupent, quoi.
Parce qu'ils s'en préoccupent, tu vois. Enfin, moi, je pense qu'ils s'en branlent complètement parce que au Japon, je sais pas à quel point c'est un sujet, tu vois. Mais moi, je pense que c'est vraiment des soucis de game design plus que de choquer les gens. Après, peut-être un peu de conservatisme dans le sens où voilà, on a du mal à faire sans Link. Mais. Je pense quand même plus pour des problématiques de game design qu'une quelconque volonté de pas froisser 5% de leur public, quoi.
Je pense aussi. Au niveau de la structure du jeu, puisque là, je pense qu'en termes de gameplay, on a fait à peu près le tour. Ah, il y a les potions éventuellement, enfin les smoothies, pardon.
Les smoothies des pestes mojo, incroyable.
Quelqu'un truc absolument incroyable, oui.
Le mec, il commence direct en disant « On aurait bien avoir le monopole, donc tu vas nous aider. »
C'est ça, il demande à Zelda, tu vois. Il demande à la première ministre s'il peut avoir le monopole sur les smoothies sur le royaume, tu vois. C'est vraiment parfait.
Moi, ça m'a rappelé les pestes marchandes de Majora's Mask qui te vendent leurs fleurs contre un titre de propriété. Enfin, absurde.
C'est absolument absurde. Donc, oui, on croise régulièrement des marchands de smoothies qui en fait ont perdu tous leurs ingrédients, et donc quand tu leur amènes des ingrédients que tu ramasses, tu peux faire des smoothies, alors des smoothies un peu cassés, hein, puisque tu peux faire genre beurre phospho, raisin, pomme sel, enfin des trucs un peu cassés comme ça. Alors il y en a qui, un peu comme la cuisine de Breath of the Wild.
Oui, c'est ça globalement.
Voilà. Il y en a qui obtiennent rien, donc tu ne mélanges que deux ingrédients, et je crois que c'est une soixantaine de smoothies au total. Oui, t'as le smoothie patate, hein. Il existe pour de vrai.
La pomme de pierre.
C'est ça. Et t'as des trucs un peu cassés, mais c'est basiquement la même fonction de Breath of the Wild, hein, c'est te rendre luminescent, ce qui peut être certes pratique pour certains passages, te rendre résistant au feu, résistant à la glace.
Permet de nager plus vite, de respirer mieux sous l'eau.
Exactement. Donc c'est vraiment la même fonction, c'est juste très rigolo que ce soit des smoothies, tu vois, ça m'a fait marrer, vraiment. Tu y vas, et le mec il te confie. Enfin, tu lui apportes les ingrédients, tu le payes quand même aussi. Hein.
Ouais, tu te fais un peu niquer quand même. Hein.
Tu te fais quand même un peu niquer. Heureusement, tu t'en sers pas tout le temps. Bref, donc en dehors de cet aspect gameplay, on a tout l'aspect, on va dire, déroulement du jeu, la façon dont le monde va être organisé.
Ouais, c'est très classique. Hein.
C'est un Zelda traditionnel, hein, c'est un Zelda très conservateur pour le coup, donc c'est pas un grand open world comme Breath of the Wild, même si c'est beaucoup plus ouvert en termes de structure que Link's Awakening.
Ah, c'est très ouvert, hein. Oui.
Tu peux aller un peu n'importe où parce que, bah, comme on l'a dit, avec les lits et les machins, tu peux aller grimper un peu n'importe où et faire un peu n'importe quoi. Et le jeu est prévu pour.
Pour moi, ça me fait penser à la façon de progresser de Link Between Worlds, où oui. T'as une première phase où on dit t'as un premier donjon dirigiste, t'es obligé de le faire en premier. T'en as deux après que tu peux faire un peu quand tu veux. T'as une espèce de quête de milieu au château d'Hyrule, et après t'as les derniers donjons disponibles, et là tu peux les faire dans l'ordre que tu veux avant de finir le jeu. Et c'est assez proche de Between Worlds et de Link to the Past du coup, mais avec la structure ouverte, quoi.
Mais c'est exactement ça, c'est une structure ouverte, on va dire, par palier finalement. T'as effectivement un premier palier, faut que tu te sortes d'un truc, le deuxième palier t'as deux donjons disponibles, tu les fais dans l'ordre que tu veux, et le troisième palier, bon bah là voilà, le jeu est complètement ouvert, on t'a donné toutes les armes, toutes les transformations, toutes les possibilités que t'avais, tu ne vas faire que améliorer ce que tu as déjà, mais on t'a donné tous les outils, maintenant tu te démerdes. Et c'est vrai que c'est ça. Mais après, ça empêche que c'est une structure plus traditionnelle, dans le sens où t'as une world map et puis des donjons, finalement. C'est surtout ça que je voulais dire.
Après, tu sens quand même une petite structure à la Breath of the Wild, dans le sens où, même si c'est un peu plus fermé sur la façon de faire les choses, tu pourras pas faire les derniers donjons en premier, hein, évidemment. T'as une façon de gérer un petit peu les quêtes, où tu vas dans une région, il y a un souci à régler, bon, c'est un peu déjà la structure de Majora's Mask d'ailleurs, hein. Mais il y a ce côté vraiment, t'arrives dans une région, il y a un souci à régler, t'as à résoudre le souci, t'as accès au donjon, tu finis le donjon, tu règles le problème, et a priori t'y remettras plus les pieds, sauf pour des quêtes annexes, quoi.
Ouais. Oui, ça ressemble énormément à ça, effectivement. T'as pas fondamentalement besoin d'y retourner à part pour finir les quêtes secondaires.
Et il y a certains aspects aussi, enfin, certains passages qui sont un peu dirigistes, où j'ai remarqué que si t'avais pas trouvé le PNJ pour te donner la quête, un mécanisme de donjon va pas fonctionner, par exemple.
Ah ouais, oui. J'avais pas fait attention. Ouais.
Pour pas spoiler, je veux dire dans la région du sud-ouest, avant d'accéder au donjon principal,
pré-donjons, ouais.
Pré-donjons un petit peu à refermer. Et ensuite, dans celui du sud-ouest, tu as, dans le pré-donjon le plus au sud, tu entres, t'as une faille devant toi, et de l'autre côté, t'as une espèce de tombeau avec deux torches à allumer.
Ah oui, je vois ce que tu veux dire.
Si tu vas les allumer alors que t'es pas allé parler au bon PNJ avant, il va rien se passer. Et par contre, une fois que t'as parlé au PNJ et que t'as la quête et tout ça, ben là, ça déclenche le mécanisme. Alors, genre, voilà. Alors, c'est quand même.
C'est un peu con, ça.
Voilà, c'est un peu con. Mais sinon, c'est un peu dommage, mais après, le jeu reste en effet très ouvert et très très tôt. Ça, c'est assez plaisant parce que autant tu démarres dans un cadre très dirigiste, autant après une heure ou deux de jeu, tu peux aller où tu veux. Quoi. Après le début très dirigiste, je pense que j'ai passé genre juste 2-3 heures à aller papillonner sur la map ici et là, à me balader avant de reprendre la route.
Ça, t'as accès à plein de trucs à la con assez rapidement en fait.
Ouais. Et du coup, tu fais déjà la connaissance avec pas mal de monstres et de nouvelles mécaniques. Parce que du coup, ton stock de monstres invocables augmente fortement.
Oui, en fait, je crois que
c'est pas mal.
Tu peux quasiment aller dans toutes les régions du jeu dès le début, hein, il me semble.
Bah, une fois que t'es sorti de la grotte,
une fois que t'as passé le premier donjon, t'es obligé de faire celui-là. Et après, tu peux aller où tu veux.
Pour moi, tu vas à peu près où tu veux. Le seul truc, c'est qu'effectivement, les choses ne se débloqueront pas et les quêtes. Enfin, tu peux pas faire les donjons dans le désordre. Alors, t'as vraiment. Comme vous disiez pour Link Between Worlds, t'as vraiment ces trois phases en fait qu'il faut passer une par une. Mais il n'y a absolument rien qui t'empêche d'aller à la montagne Goron dès le début du jeu, à part le fait que les ennemis sont peut-être un peu costauds dans ce coin-là, et encore. Mais voilà, globalement on peut le faire. Il y a aussi pas mal de manière générale. Alors il y a un petit truc qui m'a beaucoup rappelé Twilight Princess, je sais pas si vous
avez fait la même. Pensé aussi.
C'est-à-dire que de temps en temps tu as une faille, on va dire, un peu secondaire qu'il faut refermer, donc Tri ouvre un puits, tu rentres dans la faille, et en fait faut trouver 5 boules, 5, alors je crois que ça augmente
un 3, 4, 5, ça dépend.
Oui, voilà, ça dépend de la faille.
Tout à fait, faut trouver un certain nombre de bouboules lumineuses, et une fois qu'on a trouvé toutes les bouboules lumineuses, bah, ça referme la faille, et généralement ça permet d'aller sauver un PNJ, ou une structure, ou un bâtiment qui te permette d'aller continuer. Quoi. C'est une espèce de stop-gap, et ça ressemble beaucoup au truc de Twilight Princess, où il fallait collecter les perles de lune, en beaucoup moins relou, parce que là t'as à peu près le temps de le faire. Parce que Twilight Princess c'était quand même pas marrant ce truc-là, enfin pas tous en tout cas, il y en a quelques-uns qui étaient pas mal, mais généralement c'était un peu lourdingue. Et... dernière petite chose en termes de gameplay, je voudrais qu'on parle, c'est la grosse emphase qui est mise sur la plateforme.
Oui.
Alors notamment, il y a les passages en 2D de Link's Awakening qu'on retrouve. Ici,
en masse.
Assez nombreux, ouais. Tout à fait. Et Zelda peut sauter par défaut, il me semble que c'était pas le cas de Link's Awakening.
Non, maintenant, faut la plume dans Link's Awakening.
Faut la plume, et il fallait l'équiper. Donc c'était relou.
Même dans le remake, c'est vrai.
Alors que là, tu peux par défaut sauter. Du coup, il y a plein de choses qui sont possibles, que ce soit en 2D ou en phase vue du dessus, où tu peux sauter sans trop te préoccuper. Bon, je trouve ça assez rigolo parce que finalement, il y a pas mal d'emphases d'ailleurs sur la plateforme, y compris dans les donjons où t'as des pièces entières où l'objectif c'est juste d'aller monter sur une plateforme pour pouvoir déclencher un truc, un interrupteur ou quelque chose comme ça. Donc c'est d'aller vraiment parcourir la salle et de monter au fur et à mesure.
Ouais, d'ailleurs en parlant des donjons, alors moi je sais pas vous, mais je les trouve pas ouf. Hein.
Alors, les donjons. Moi, c'est les boss que j'ai trouvé vraiment pas ouf.
Alors, les boss aussi, mais vraiment, même les donjons, je les trouve pas... Bah, tu vois, comme tu dis, c'est... des fois, je trouve un interrupteur en hauteur, j'ai juste à faire des lits. Ok.
Ouais.
Et je trouve, bah, vraiment, ils sont décevants. Par rapport au potentiel que pour avoir ce gameplay, j'ai pas trouvé de donjon fun pour l'instant. C'est très facile, c'est très linéaire.
Voilà, ils sont très linéaires. Après, t'as des coffres optionnels qui sont sympas. pas à chercher.
Bah, ouais, notamment, il y en a un dans un des donjons qui m'a un peu... Alors, à un moment, tu finis par choper une taupe.
C'est ça.
Je pense à, tu penses à celui-là, ouais,
je pense à celui-là où j'ai fini par mettre un marqueur sur la carte pour me repérer. Mais...
C'est ça. Donc, en fait, t'as une taupe. Et en fait, quand t'es dans les passages 2D, la taupe peut creuser dans le sable et donc créer des espèces de puits. Et tu peux tomber d'un étage à l'autre. Et en fait, tu finis par tilter à un moment que tu peux aussi t'en servir en vue du dessus pour aller creuser à certains endroits et que tu vas atterrir d'une salle de donjon à l'autre. Donc je suis d'accord, le donjon lui-même il est pas ouf, mais les coffres cachés...
Ouais, mais tu vois, c'est dommage que cette énigme de la taupe ce soit pas une énigme de base du donjon pour avancer. Là, ça aurait été intéressant, ça aurait été un bon gimmick.
Ça aurait peut-être bloqué pas mal de gens aussi.
Enfin, oui, c'est possible. Bah après, c'est à eux aussi de faire un bon level design pour t'expliquer que tu peux utiliser la taupe de manière facile, tu vois. Enfin, et je trouve ça dommage. Enfin, tu vois que là, je pense que c'est un peu les limites de Grezzo dans la série, c'est qu'ils ont fait beaucoup de remakes, beaucoup de portages. C'est leur premier original et à mon avis, ils ont pas la science du donjon comme on a pu l'avoir chez Nintendo à une époque, quoi.
J'imagine qu'ils ont reçu un coup de main quand même de la maison mère.
Sûrement, mais tu vois, moi je les trouve décevants alors que ça aurait peut-être été un des épisodes où les donjons auraient été vraiment fun. Avec peut-être une structure libre, beaucoup plus libre que là, c'est très linéaire, tu vois. Il y a peut-être juste le donjon de l'eau, pour l'instant, j'ai trouvé sympa.
Le donjon de l'eau est très bien.
La carte, d'ailleurs, la carte est vachement bien foutue, je trouve.
La carte du monde ?
Non, la carte des donjons.
Ah, je trouve bordel, moi, j'ai du mal.
Ouais, je suis un peu d'accord avec Medusa. Hein.
Parce qu'en fait, tu sais, si tu prends A Link to the Past, t'avais vraiment le découpage par étage. 0, 1, 2, et si t'avais une pièce au-dessus d'une autre sur la map, quand tu changeais l'étage de la carte, tu voyais clairement quelle pièce était au-dessus des autres. Alors qu'ici, tout est mis sur le même plan horizontal, qui du coup peut être très grand, parce que ils ont relié les escaliers de, par exemple, étage 1 avec la pièce en dessous étage 0, ils les ont reliés en mettant un plan de la partie plateforme en 2D de profil, du coup, qui est intermédiaire, puisque quand tu changes d'escalier, contrairement aux Zelda classiques, tu n'arrives pas directement à l'étage supérieur, tu te retrouves dans une phase en 2D plateforme. Et ils ont voulu représenter ça sur la carte. Et du coup, c'est sympa de l'avoir représenté, mais je trouve que ça ajoute vraiment beaucoup, beaucoup de bruit, ça la rend invisible.
Alors, pour le coup, je maintiens, moi je les trouve lisibles, par contre, je rejoins Antix, elles mettent grave en évidence la linéarité des donjons, quoi.
Oui, puis en plus, alors c'est peut-être pas non plus aidé, mais c'est peut-être une facilité, mais il y a beaucoup de téléporteurs sur la carte du monde, et petite nouveauté, il y a aussi beaucoup de téléporteurs dans les donjons. Et oui. Ça, c'est pareil, j'ai l'impression que ça contribue un peu à l'impression de facilité, c'est que finalement, t'as pas véritablement de besoin d'apprendre à parcourir le donjon, et d'avoir situation awareness, je sais pas comment on dit en français, mais
conscience du monde,
conscience de la navigation, en fait, ce plaisir qui est
un sens de l'orientation, en fait,
le sens de l'orientation dans le donjon, t'en as moins besoin dans le sens où tu peux te téléporter un peu n'importe où.
Oui, souvent, pareil, dans le monde extérieur, en fait. même dans le monde extérieur, ils sont super proches. Enfin, le monde extérieur n'est pas gigantesque non plus, mais je veux dire, tu te retrouves. Entre deux téléporteurs, en vrai, c'est maximum 2 minutes à pied. Quoi.
Ouais, mais ça, à la limite, sur le monde extérieur, ça me gêne moins dans le sens...
C'est une station de métro parisienne, en fait.
Oui, c'est ça. C'est une station de métro. Mais en vrai, sur la carte du monde, ça me dérange pas. Je trouve que pouvoir aller très vite en se disant « Ah, merde, c'était à tel endroit, je suis pas obligé de reparcourir toute la carte et de passer une demi-heure. » Même si, effectivement, elle est pas gigantesque, je suis même pas sûr qu'on mette une demi-heure à marcher du nord au sud ou de l'est à l'ouest. Mais je trouve que c'est une facilité appréciable. Par contre, dans les donjons, soit c'est un aveu d'échec, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à designer des donjons qui bouclent suffisamment sur eux-mêmes pour que tu te re-retrouves dans la pièce centrale et que tu puisses retrouver ton chemin, soit, effectivement, y a une couille, quoi.
Mais en fait, je trouve qu'ils ne servent même pas à grand-chose, parce que les donjons sont tellement linéaires et tu fais finalement assez peu d'allers-retours. Au final, moi, je les fais vraiment en mode automatique, les donjons, je n'ai pas trop de questions sur les déplacements. Et du coup, les téléporteurs, ouais, vous m'avez rappelé qu'il y en avait plusieurs, en fait. Bon, il y en a un au début et un à la fin, c'est tout.
Mais tu les utilises quasi jamais.
C'est ça, ils servent pas à grand-chose.
Bah, celui du début, celui de la fin, si.
Ouais, je pense que c'est des checkpoints pour les personnes qui sont moins expérimentées sur Zelda. Hein.
C'est possible.
Mais ouais, moi c'est un peu ma déception là sur sur les donjons. Je retrouve un peu des facilités que j'avais pas vues depuis les Zelda DS, qui avaient aussi un peu ces structures un peu linéaires et des donjons très oubliables, finalement assez peu marquants en termes aussi de DA. Là, c'est un peu le problème que j'ai sur ce Zelda. Alors que le monde extérieur est vraiment super chouette à parcourir, là, les donjons, je m'emmerde, quoi.
Alors après, peut-être que ça se débloque vers la fin du jeu. Je pense que personne ne l'a fini ici, si je dis pas de bêtises.
Bah, en tout cas, sur les 4 donjons que j'ai fait pour l'instant, voilà, il y a celui de l'eau qui était un peu sympa, qui surnageait, pour ainsi
C'est
dire,
ça.
mais le reste n'est pas ouf, quoi.
Ouais, effectivement, je suis un peu de cet avis. Je trouve qu'il y a. Mais celui de l'eau commence à être pas mal, donc il y a un petit espoir. Peut-être que les derniers vont être un peu plus sympas, un peu plus costauds, et peut-être qu'il va y en avoir un qui va vraiment sortir du lot. Par contre, ce qui ne sort vraiment pas du lot, c'est les boss. Hein. Là, je maintiens, c'est quand même
Ah bah, quand tu verras au
pas
château,
ouf,
tu
quoi.
penseras à moi
J'ai
avec.
encore pris que celui du sud-ouest pour en reparler. Enfin, à part le premier qui est obligatoire et que j'ai déjà oublié. J'ai encore fait que celui du sud-ouest, j'ai trouvé assez intéressant en fait.
Putain,
Prend
à part
différentes
bourré
formes.
comme un sac.
Bah.
J'ai quand même l'impression qu'il a fallu se creuser un peu la tête et comprendre le boss en fait, tu vois, entre les phases où il est enterré, celle où il est en l'air,
Ouais, mais ça reste assez moyen finalement. Enfin, tu vois, une fois que t'as chopé le truc, je pense que tu peux le battre intégralement sans l'assommer.
Bon après en plus l'assommer c'est pas très dur hein. Moi j'avais
En
mis
plus.
les ventilateurs devant moi, ils se les prenaient dedans. Ouais, ça marche hein, on tabasse
C'est
hein.
ça. Non, mais c'est ça. Tu veux, c'est presque trop
J'ai
ouvert
pas
en
fait comme
fait.
ça, j'y ai pas pensé.
Non, bon, moi j'ai
Du
trouvé
coup,
la
voilà.
solution par hasard hein. J'étais là genre bon bah ça marche.
Allez, c'est
Même
parti.
chose, et en fait l'indice tu l'as dans la première phase.
Oui, puisqu'il se bouffe les
Il se les
statues.
bouffe tout seul et voilà. Pour moi c'était l'indice. Bon bah maintenant que les obstacles ne sont plus là, c'est à toi de les rajouter. Et ça marche avec n'importe quoi.
Ça marche effectivement avec n'importe quoi. Mais du coup, tu peux mettre des lits. Mais c'est un peu assez important. Bref, nous allons marquer une deuxième petite pause musicale avant d'aborder la partie, on va dire, DA, scénario, tout ça, tout ça. Et donc, nous allons nous écouter un autre petit morceau de la bande originale de The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Ce morceau s'appelle Sea River Dungeon. Je ne vous ai pas donné les compositeurs et compositrices. Alors, malheureusement, on n'a pas spécificement ce morceau-là, on a juste les compositeurs et compositrices de manière générale. Ils sont
Ouais bah,
7.
comme d'hab avec Nintendo, hein, il faudra
Malheureusement.
attendre la BO pour avoir le détail. Hein.
Pour l'instant, c'est pas encore sorti. Donc nous avons alors, Masato Ohashi, Manaka Kataoka, je suis désolé, Shizaki
Shisaki
Osaka,
Osaka.
Reika Nakai, Yuri Goto, Ryotaro Yagi et Azusa Kato. Voilà, qui ont composé tout ça. Le morceau s'appelle donc Sea River Dungeon, ça dure un tout petit peu plus de 2 minutes et demie. On se retrouve tout de suite après. Et nous voilà de retour. Alors, on va essayer de pas rechier dans la colle le retour, hein, ça ce serait bien. Hop. Deuxième partie sur Echoes of Wisdom, on va parler un petit peu du scénar. Alors, on a déjà vu en toute première partie comment on en est arrivé là, donc les failles, Zelda qui se retrouvent, Link est capturé, le roi d'Hyrule qui devient un imposteur. Alors, le roi d'Hyrule, le premier ministre et le général, il faut le savoir. Et donc, bah là, on y
La première
retourne.
ministre, monsieur.
La première ministre, oui, pardon.
Il y a encore un jeu qui en rappelle.
Putain.
Des femmes qui dirigent le pays.
Les chiens et les chats couchant ensemble. Une série collective.
Oula.
Bref. Non, mais tout va bien. Tout va bien. Donc oui, ça c'était le scénar de départ qui finalement se développe pas tant que ça.
Ça reste
compliqué.
C'est la structure un peu traditionnelle de Zelda en deux phases, enfin en trois phases. Introduction, première partie, twist au milieu de jeu, dernière partie.
Oui, puis finalement avec un scénario qui à chaque fois, bah, tu débarques dans une région, il y a une faille, il faut la refermer. Les habitants ont plein de problèmes, et puis une fois que la faille est refermée, bah, tout va bien.
Ouais, pour le coup, le scénario est pas très, très, très original. En fait, c'est du Zelda assez classique, voire même trop, parce qu'on en parlait un peu en off. Moi, je trouve surtout pour un jeu où il n'est pas le héros Link, il est beaucoup trop présent.
Je suis d'accord.
Alors qu'au début, ils font un truc assez sympa, c'est que en fait, personne sait qui c'est Link dans l'univers du jeu. Enfin, Zelda, elle comprend pas qui l'a sauvé, quoi. Et je me suis dit, c'est cool, il y a peut-être un truc à faire derrière, et en fait, tu te rends compte qu'il prend toute la place.
Mais vraiment, est-ce qu'elle comprend pas vraiment ?
Bah, elle sait pas qui c'est en fait. Personne n'est au courant de qui est Link au début du jeu.
Les pays sont en tunique verte, c'est ça qui.
En fait, ouais, il y a cet aspect-là, mais alors c'est peut-être. T'as peut-être raison après sur la présence de Link, mais autant il y a des endroits où tu passes où Link, il est super connu parce qu'il a sauvé le village régulièrement, il vient nettoyer les monstres et couper les mauvaises herbes et faire les livraisons de bouffe, potentiellement. Tu vois ? Et autant il y a des endroits où il est inconnu. Et alors pareil pour la princesse Zelda, genre. Genre il y a des endroits et ils connaissent pas la princesse.
Les oreilles ont rien à branler, par exemple.
Les oreilles sont attends, j'ai entendu ce nom quelque part. Bon, bah,
les Gerudo, ils ont l'air de Zelda, connaît pas, jamais entendu parler, tu vois.
Ouais, c'est toujours un peu difficile à croire.
On a quand même des. Bon, tu vois, bon, les Aura et les Gerudo, les Goron, tout ça, machin, ça fait partie du lore de Zelda. Tous les ennemis font partie du lore de Zelda à peu près. Et alors, il y a quand même un personnage, je trouve, qui est intéressant. C'est Impa, qui pour le coup, donc qui est la nourrice de Zelda, qui pour le coup a l'air d'avoir. Alors, troisième âge, elle doit avoir dans les 80 000 ans dans le jeu. Et ça, c'est pas. Alors, dans Tears of the Kingdom, elle a à peu près cet âge-là aussi. Mais on sait aussi que, par exemple, dans Ocarina of Time et Twilight Princess, elle était beaucoup plus jeune. Impa. Et donc, je me dis, tu vois, le fait qu'elle soit âgée, c'est peut-être le seul repère temporel qu'on a qui nous fait dire c'est un peu normal que Link soit connu, mine de rien, après tout ce temps.
Ouais, mais t'essayes de replacer un truc dans une timeline, là, mais du
coup,
c'est,
ouais,
mais c'est
pas
ce que tout le monde fait depuis 30 ans.
Mais non, mais c'est pas
une timeline, c'est de la merde.
Le jeu doit figurer dans le timeline.
Très bien, alors moi, je pense... Non, mais je pense qu'il faut faire du révisionnisme. Voilà, il faut effacer certains jeux Zelda de la timeline, notamment parce qu'ils sont trop woke. Et voilà, c'est pas possible. C'est, voilà. Echoes of Wisdom, c'est pas possible. Allez hop, pas de timeline.
Oh. Non, c'est un peu mon seul grève sur le scénario, tu vois, Zelda, héroïne, et, contrairement à Princess Peach Showtime, où Peach pour le coup est vraiment l'héroïne, y a pas Mario, y a pas Bowser, ben là, t'as les classiques qui sont un peu omniprésents, et tu sens qu'ils ont pas vraiment tout à fait réussi à la faire purement l'héroïne du jeu, quoi. C'est d'ailleurs le même scénario que ce Zelda de sombre mémoire où Zelda doit sauver Link à nouveau. Rappelons-le.
Oh,
putain.
Voilà, il gâche tout. Il gâche tout à chaque fois.
Ah, je comptais le placer à un moment.
Ouais, non, mais bon. Mais c'est vrai que je suis pas. Mais après, encore une fois, on le disait aussi tout à l'heure, ça a le goût de Link's Awakening, ça ressemble à Link's Awakening, on dirait. Tu disais en off tout à l'heure, et je trouve ça très juste, si ce jeu était sorti il y a 15 ans, il serait sorti sur DS et ça aurait choqué personne, et en fait ça aurait été un petit Zelda portable sans prétention aucune autre que de faire un truc un peu rigolo avec des échos, des ennemis marrants, et puis voilà.
Mais je pense que c'est même ce jeu-là, enfin ce Zelda-là, c'est juste son but en fait, hein, c'est de tester des trucs. Hein.
Non mais de toute façon c'est le Zelda un peu bite size finalement, c'est le petit Zelda entre deux open world, c'est le petit Zelda traditionnel où tu retrouves un univers plus mignon, plus petit, plus
restreint, voilà, aussi.
Plus restreint, mais ça a son charme aussi, hein, encore une fois. Ce serait la suite de Link's Awakening, je serais pas choqué, tu vois. La vraie suite sur Game Boy de Link's Awakening, je serais pas tombé de ma chaise.
Moi, je suis très content qu'ils fassent aussi des Zelda un peu classiques. En plus, la DA de Link's Awakening est vraiment très très chouette et se prête bien à ce style de Zelda, je trouve. Bon, pas trop en abuser, mais voilà, je suis très content qu'ils en fassent un deuxième original avec ce style. Mais c'est vrai que ouais, on sent que c'est un peu timide, tu vois, sur certains changements.
Peut-être. D'ailleurs, tiens, tant qu'on est sur la DA, on est sur du choupinou, comme on l'avait vu sur Link's Awakening,
Ça chatouille.
c'est ça, c'est toujours absolument magnifique. Alors c'est dommage, ça ramouse un petit peu par moment.
Pour moi, ça va.
Tu joues en portable ou en docké?
Alors, Moi, je joue en docké.
moi, je fais les deux. Beaucoup en portable.
J'ai l'impression qu'il rame moins en portable pour le coup.
C'est pas
Après, moi,
impossible.
j'ai pas une Switch Day One et apparemment, les Switch Day One ont un peu plus de mal avec le jeu.
Ah, moi j'ai une Switch Day One, c'est peut-être pour ça. Mais
Et
sur la
après.
OLED, ça avait l'air de faire à peu près pareil. Hein. Enfin.
Je crois qu'il ne doit pas y avoir de différence. Alors, j'ai l'impression que c'est très, très, très similaire en portable et en docké. Mais pour le coup, en fait, Link's Awakening, il y avait déjà un petit peu quelques souffrances de performance
C'est
par
ça.
moment. Et ici, je crois que c'est peut-être un peu plus souvent, mais en même temps, je crois que le jeu arrive à tenir une plus haute résolution plus souvent aussi.
C'est pas impossible, ouais.
Après, pour mon XP du jeu jusqu'ici, clairement, j'aurais préféré qu'il soit tout le temps super fluide à 60 FPS, mais c'est pas non plus, ça vient pas entacher le plaisir de jeu.
Non, clairement, surtout que en fait, tu te retrouves souvent à être. Enfin, t'as vraiment l'impression d'être face à une espèce de diorama.
Oui.
C'est. T'as l'impression d'avoir des jouets. En fait, petite anecdote un peu rigolote. Donc, ma fille a fini le jeu bien avant moi, parce qu'elle l'a bouffé en une semaine. Et en fait, tout le côté un peu débile de l'AVF sur lequel on va revenir. Parce que le village du sud, c'est le village du sud. DU2SUDE. Le village côtier, c'est le village côtier. KOTHIE. En fait, c'est très marrant parce que t'as l'impression que c'est. Tu vois, c'est un gamin qui te raconte une histoire de Zelda avec ses jouets. C'est exactement ce qu'il ferait.
D'ailleurs, c'est renforcé par le côté de je fais apparaître n'importe quoi dans la scène quand j'en ai besoin, quoi. C'est
C'est
typiquement le genre
ça.
de choses que tu ferais en étant gamin.
C'est exactement ça. Et je me dis, y a un côté. Le côté jouet qui était très assumé pour Link's Awakening, c'était t'as vraiment l'impression d'avoir un petit diorama avec des petits jouets, avec un effet plastique sur les
L'arbre
arbres, sur les
magique pour les plus
textures.
vieux.
Voilà, l'arbre magique pour les gens qui ont plus de 50 ans, hein, parce qu'il faut le dire. Voilà, mais. Je trouve que toutes les mécaniques de ce jeu-là donnent l'impression que c'est un gamin qui est en train de jouer. Et je trouve ça très rigolo de se dire, tiens, c'est un gamin qui est en train de jouer, et en fait, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il place des
Merde.
petits bonhommes, et des petits trucs, et
Putain,
des
tu
petits
connais des
ennemis.
gamins qui foutent le feu dans les champs, alors.
Oui, bah oui, évidemment.
Jamais vécu à la campagne? Attends, t'as jamais vécu à
Alors,
Paris parce que c'est les abribus hein,
pause.
où font le feu. Hein.
Même les monstres sont choupinous.
Brave.
Donc oui, tout est choupinou, et t'as vraiment l'impression que ouais, c'est je sais pas, un gamin qui est en train de jouer. Même le scénario, je veux dire, même les ennemis, même le. Mais comme tu disais, le fait que tu puisses faire apparaître un peu des objets n'importe quand, ça ressemble un peu à ça aussi, quoi.
Oui, non, bah.
Et soudain.
Et c'est exactement ça.
Et soudain, un lit.
Non, mais non, on avait dit non pour le lit. Mais voilà, je trouve qu'il y a un côté jouet qui est vraiment assumé jusqu'au bout, y compris dans le scénario, quoi. Mais en fait, le roi d'Hyrule, c'était un méchant, c'était pas le vrai roi d'Hyrule. C'est un côté un peu débile, mais qui marche, quoi.
Oui, non, et puis y a des scénarios un peu débiles. Enfin, tout ce qui se passe chez les auras, en fait, c'est totalement stupide quand tu regardes. Enfin, ça n'a pas de
Ah, c'est drôle.
sens.
Je
T'as tout rond.
m'attendais, tu sais, à un bout de scénario un peu plus sérieux, mais non, pas du tout, quoi.
Non, non, c'est.
Et
T'es vite
d'ailleurs,
jusqu'au bout.
en parlant des auras, donc, enfin, bon, y a deux races de auras dans celui-là, et j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait avec ça. Et un petit truc que j'ai trouvé sympa, c'est que on a passé la musique du village des auras des mers, musique à la harpe. Et y a le village des auras des rivières qui est plutôt une musique avec une espèce de cuivre, genre trompette. Et tout scénario tourne autour du fait que les auras doivent jouer de la musique. Et mon grand espoir, c'était que les auras jouent de ces instruments-là. Et j'ai pas été déçu.
Non mais
Quand t'arrives dans
grave.
le village, tu pouvais savoir quel instrument ils allaient jouer juste en étant un peu attentif. C'est assez rigolo.
Effectivement, il y avait des trucs. Mais le truc, le coup de Zora des mers et des Zora des rivières, c'est un joli petit clin d'œil à des Zelda un peu plus vieux. Il y en a d'autres, des petits clins d'œil comme ça, qui sont glissés un petit peu partout pour les gens qui connaissent bien 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 la série, je trouve ça plutôt marrant. Est-ce qu'on parle de cette VF de l'amour? On a déjà parlé un petit peu, mais... Les lieux sont donc un petit peu pétés. Alors la VO est beaucoup moins drôle en l'occurrence. Hein.
C'est vrai?
Bah, le village du sud s'appelle juste Village South.
Ah, t'as joué en japonais?
Non, j'ai pas joué en japonais.
C'est la VO techniquement.
Oui, non, mais je veux dire... Ok, la version anglaise...
Parce qu'ils ont pas d'humour aux États-Unis.
Bah, je sais pas s'ils ont pas d'humour ou si c'est les nôtres qui sont particulièrement doués, mais je trouve qu'il y a quand même...
Je vous parlais en off, un personnage de la région du sud-ouest, pour rentrer dans le délire de Méduse, où... Ah putain, je le spoil ou pas? Ça me démange.
Ah, vas-y, c'est pas grave.
Facette. Le personnage s'appelle Facette. À un moment, il y en a deux dans la même pièce, et t'as un perso qui fait « Ah, il y a donc deux facettes. » Là, je me suis dit, elle ne marche qu'en VF, celle-là.
Alors, je pense qu'elle marche en VO, mais pour une autre raison.
Bah, ils ont dû changer le nom, surtout.
Je pense aussi.
Oui, oui.
Mais voilà, t'as quand même des trucs assez merveilleux, je trouve, dans cette VF.
Mais moi, je serais pas surpris qu'en version japonaise, ils aient fait des jeux de mots un peu débiles aussi. Hein.
Ouais, mais c'est vraiment les Américains qui ont pas d'humour, quoi. C'est officiel, hein.
Oui, ça, c'est...
Non, mais là, c'est triste, quoi. Village South. Village du Sud. D'apostrophe du Sud. Voilà, rien à branler, quoi.
Mais vraiment, ouais, avant que tu me fasses la remarque sur les villages, j'étais là, genre, mais pas de problème avec son nom. Et j'ai regardé dedans, je fais, oh, les bâtards.
Non, mais c'est ça, quoi. Moi, je trouve ça... Le village côtier, j'étais là, genre... Le village du Sud, je me suis dit, bah, peut-être...
Il est magique, celui-là.
Peut-être que c'est peut-être que c'est pas fait exprès, peut-être que c'est une traduction un peu à la con, tout ça. Et village côtier, je fais non, ça y est, nique ta mère.
Moi, j'ai l'inverse, c'est-à-dire que dès le début du jeu, puisque c'est la région où tu commences, la région du sud, j'ai directement capté le truc et je me suis dit, ah, elle est con. Et alors, par contre, c'est à différents. Alors, on te parle du village côtier à différents endroits. Ouais. Et tu sais, il m'a bien fallu avoir rencontré 3-4 PNJ qui parlent du village côtier, puis je me suis dit, ah ouais, le village côtier, en plus ils ont dit qu'il y avait de l'eau. Ah, les cons.
J'étais très déçu que la baie Zora s'appelle pas la baie Glouglou, quoi. Je veux dire, c'était vraiment les mecs qui étaient partis, quoi.
Ouais.
Voilà, j'aurais kiffé que le truc s'appelle la mer quelque chose. Enfin, tu vois, qu'ils aient trouvé un truc pour chaque. Mais déjà, les noms des villages sont quand même assez ouf. Mais ça renforce, encore une fois, ce côté jouet, ce côté on fait pour de faux. Oui, le Jabul. C'était pas mal non plus. Voilà, je trouve qu'il y a un côté très très fun là-dedans et un côté bah on s'amuse, on s'en fout, c'est pas grave. Alors comme on l'a dit, tout n'est peut-être pas réussi, mais je trouve qu'au global, pour un petit Zelda traditionnel, un Zelda portable, bah, ça fait bien le taf, quoi. Entre deux gros Zelda open world à 300 heures, avoir un petit jeu d'une vingtaine d'heures avec juste des petits donjons et puis une ou deux idées un peu originales.
Ah, il est très très chouette.
Je trouve que ça marche bien. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, en guise de conclusion, on va dire, Méduse.
Alors, oui, pour moi, c'est un gros oui. Je suis pas super loin encore, là, puisque je vais seulement entamer le deuxième donjon. Enfin, je suis en train de faire la... J'ai assisté à la catastrophe juste avant d'accéder au donjon Zora. Pour pas spoiler.
La fameuse catastrophe. Et,
alors, je m'y attendais pas du tout... à voir ça. Mais après, non, c'est super chouette. Et en fait, c'est vraiment le Zelda parfait de la fin de vie de la Switch, je pense. Puisqu'on sait qu'à peu près toutes les équipes de Nintendo sont affairées sur la Super Switch, ou je sais pas comment elle s'appellera, et qu'on devrait découvrir dans les prochains mois. Et du coup, c'est super bien d'avoir, en fait, c'est l'opportunité à Grezzo de faire un Zelda original. Juste là, maintenant. Dans un moment où il y a environ rien comme jeu, si ce n'est bientôt Mario Luigi, machin truc, Super Brotherhood, Fraternité, Égalité, mon cul, et on aura environ rien d'autre avant la Switch 2, si ce n'est peut-être Metroid Prime 4. Donc voilà.
Ah, en plus, je trouve, Prime 4, je sais pas. Hein.
Bon, on l'aura, mais on l'aura à cheval sur les deux, enfin, on l'aura sur les deux consoles, mais on sait pas si on l'aura dans 6 mois ou dans 1 an. Voilà. Alors, par contre, moi, j'ai quand même un petit mystère que j'ai pas encore résolu dans ce Zelda, c'est je me suis, alors, on sait qu'on peut, pet the cat et pet the dog, donc caresser les chiens et les chats. Mais par contre, quand on est dans les eaux, il y a des poissons qui sont des ennemis et il y a des poissons qui sont pas des ennemis, je sais pas si on peut les pêcher ou s'ils sont juste là pour le décor.
Bon,
et pareil avec les papillons. Je sais qu'il y a eu un moment dans Ocarina of Time, tout un mythe autour des papillons, quand on les approchait avec un bâton, je sais pas ce que ça faisait, machin, jamais compris. Et je me dis, j'ai pas encore trouvé, voir s'il y avait moyen d'attraper les papillons et oiseaux et... Voilà, papillons, oiseaux et poissons, c'est le petit mystère.
Je me suis posé la question pour les papillons, parce qu'ils avaient l'air beaucoup trop bien faits pour être juste du décor.
Alors les papillons d'Ocarina of Time, je vais dissiper tout de suite le truc, c'est si tu tiens un bâton Mojo et que tu te mets à côté des papillons, ils finissent par se poser sur le bâton Mojo, c'est tout.
C'est tout.
Y a rien y a un mec qui a programmé ça quand même.
Mais il y a quand même un mec qui s'est fait chier à programmer ça.
Normal.
Ça me paraît être les détails importants. Bref, Mecton. Qu'est-ce que toi tu en as pensé jusqu'à présent de ce que tu étais déçu par les donjons?
Non, les donjons sont pépères, la DA est toute choupinou. Pour moi, en fait, Grezzo, c'est des pestes mojo. C'est-à-dire qu'ils ont fait un smoothie avec un peu de Breath of the Wild, beaucoup de Link's Awakening. Ça fait ça, ça passe crème. C'est le pile poil, l'entre-deux mondes qui fait du bien, qui se joue tout seul. Et là où j'en suis rendu, j'ai été touché par une certaine réplique de Tri qui me donne envie d'aller au bout du scénario pour voir comment le personnage est développé. Quoi.
Ah, c'est peut-être ça aussi. Hein. Je rappelle que personne n'est allé au bout dans cette pièce, donc il y a peut-être des petites surprises qui nous attendent aussi au tournant. On fera peut-être un petit retour dessus aussi, hein, parce que si ça se trouve, vous avez raté des choses et vous êtes mauvaise langue. Impossible. On n'a pas eu énormément de temps pour y jouer non plus. Antix, un petit mot de la fin sur ce Echoes of Wisdom.
Ouais, moi j'étais assez critique parce que je pense que j'attendais quelque chose de plus radical dans certains de ses choix à l'annonce. Moi j'étais très content du système et du fait que ce soit Zelda l'héroïne.
Tu sais, juste la radicalité, ça aurait été de l'appeler The Legend of Link.
Je suis d'accord. Là par contre, les woko-gauchistes, ils auraient fait dans leur froc. Hein.
Mais en vrai, je passais un bon moment sur le jeu. Vraiment, le système d'écho, c'est quelque chose d'assez excitant que j'espère qu'on reverra. Peut-être exploiter d'une autre façon ou peut-être mieux exploiter dans des donjons. Mais il y a vraiment des bonnes idées. Je suis vraiment sous le charme des décors du jeu et compagnie. Voilà, j'aurais aimé des meilleurs donjons. J'aurais aimé que Link soit moins présent. Mais ça reste un bon moment. Là, je dois être à peu près à la moitié du jeu de mon côté. Donc ma seule énigme, je pense qu'on en parlera quand on l'aura fini, c'est est-ce que ce système peut tenir le jeu jusqu'au bout. Et c'est ma seule question. Pour l'instant, ça tient. Donc
alors,
je vais continuer à m'amuser avec.
C'est pas pour spoiler, mais moi j'ai vu ma fille le finir et c'est vrai que...
C'est un peu ma crainte, hein, je vais pas te mentir.
Bah, à mon avis, crainte justifiée. J'ai vu le dernier boss et je me suis dit « Ah !»
J'ai eu quelques échos...
C'est un peu
LOL
chiant,
mais tant que je l'ai pas fait, j'en parle pas. Oui, c'est pas fait exprès.
Après, tu peux aussi démarrer le jeu directement en mode héroïque. Il me semble que c'est pas un truc qui était possible dans Link's Awakening.
Tu peux même changer quand tu veux.
C'est quoi? C'est quand tu te mets dans ton lit, tu rêves de ta journée de boulot du lendemain? C'est cool.
C'est ça le mode héroïque? Non, c'est le mode Dark Souls. Tu te mets dans ton lit, ton lit te mange.
Ça, c'est le cauchemar. C'est le piano de Mario 64.
C'est ça. Moi, pendant un moment, j'ai eu très peur. Il y a un moment, je vous jure, hein, c'est un vrai traumatisme. Il y a un moment, j'ai vu trois coffres dans une pièce, et au moment d'ouvrir le premier coffre, je me suis dit, putain, il va me bouffer, c'est un mimique. Pour de vrai. Hein. C'est vraiment le truc que je me dis, ah merde. En fait, non, il n'y a pas de mimique, hein, je vous rassure. Les jeux à mimique, c'est banni. C'est officiellement banni. Hein. C'est non. C'est refusé. C'est interdit.
Faut pas que tu joues à Romantic Saga, alors.
Mais je ne jouerai pas à Romantic Saga. Partie des... Les mimiques, c'est non. Un coffre, c'est un coffre, il y a un trésor dedans, c'est pas une saloperie qui essaie de te bouffer. Ça, c'est le minimum. Bref, donc, bah, on va emballer le tout pour cette semaine.
Mais toi, tu dis pas ce que tu en penses.
Mais si, je vous ai dit avant de vous passer la parole.
Ah oui, pardon.
Bah oui, voilà. Et ben voilà, le mec a même pas suivi l'émission dans laquelle il est. Moi, je suis désespéré. Voilà. Il faut le dire. C'est un scandale. Voilà. Bref, on va boucler ici pour cette semaine. On se retrouve dans deux semaines où on parlera de Zelda-like, c'est-à-dire des jeux qui ressemblent à la formule Zelda, qui ont l'odeur de Zelda, qui ont parfois le goût de Zelda, mais qui ne sont pas Zelda.
Le goût de Zelda.
Pourquoi pas.
Le goût de la cartouche.
Oui, le goût de la cartouche, c'est celle qui est pas bonne quand tu la mâches. C'est vraiment pas bon. Et je vais corriger mon immobilité, sinon j'en fais une chance de me faire chier. Donc non, dans Ocarina of Time, c'est pas ça. C'est que si tu sors un bâton mojo, un papillon peut te suivre, et si tu le promènes un petit peu, il peut se transformer en fée. Voilà. Comme ça, l'erreur est pas. Mais pour moi, quand tu t'arrêtais avec un bâton, t'as le papillon se poser dessus. Mais il y a peut-être d'autres interactions, du coup. Enfin, du coup, il y a cette autre interaction. Bref, donc on va parler de Zelda-like, on fera peut-être un petit retour sur Echoes of Wisdom, s'il y a quelque chose de particulier à dire sur la fin, s'il y a un truc, on en profitera peut-être pour faire un petit entrefilet. Mais voilà, on a une petite liste de Zelda-like qui nous a été fournie gentiment par Renard, il y en a quelques autres qu'on va rajouter dessus, et je pense qu'on va tous ensemble essayer de voir un petit peu ce qui marche bien, les indés qui reprennent cette formule-là, notamment, ce qui marche moins bien.
Ce qui va être sympa avec ce sujet, c'est qu'on va couvrir quand même pas mal de générations de consoles.
En plus, oui. Parce qu'il y a effectivement un peu de rétro dedans qui va s'y glisser. Notamment, on n'échappera pas au fait de parler de Soleil, par exemple.
Ah putain, on va parler de Sega.
Alors moi, j'ai une question, c'est est-ce que les actions RPG genre Secret of Mana, on les compte dedans ou pas? J'ai une suggestion.
On pourrait. Alors, est-ce que c'est complètement dans cet état d'esprit-là? Je suis pas sûr.
On en reparlera en off.
Mais on en reparlera effectivement parce qu'on a déjà une liste assez conséquente qui nous a été fournie par Renard avec des jeux intéressants. Il y a quelques-uns qu'on a tous, je pense, ici touchés et d'autres qu'on n'a pas tous touchés. Mais voilà. Mais oui, on a écrit le conducteur en live. Voilà, tout va bien. Tout va bien. Bref. En attendant, on vous fait de gros bisous. On vous retrouve vendredi pour la nouveauté de la semaine, mercredi prochain pour la suite des aventures de Petit Sexe. C'est vraiment la honte, putain.
Ah, mais c'est lui le héros qui se Zelda au début du jeu.
Mais c'est ça, oui.
Oui. Alors, en plus, alors, est-ce que dans Link's Awakening, on pouvait renommer Link? Parce
oui.
que là, on ne peut
oui.
pas renommer Zelda.
Non.
On ne peut pas renommer Link non plus.
Non, parce que le problème, c'est qu'en 6 lettres, il y a plein de mots qu'on aurait pu mettre pour Zelda, et je suis pas sûr que ça aurait fait plaisir à Nintendo.
Comme par exemple, Dissex.
Et là, t'aurais pu l'écrire en entier.
Mais je pense qu'on va se faire striker par Nintendo un jour. Tu vois, c'est ça qui va se passer. Mais bref. En attendant, on vous fait de gros gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner sur notre compte Blue Sky, parce que je fais chier à faire tout ça. Ce serait quand même dommage de pas le faire. Voilà. À dans 2 semaines. Gros bisous tout le monde.
Des bisous.
Bisous.